Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour. Je m'appelle Denis Chagnon et je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à Marcher vers le bien-être. J'espère que vous vous portez bien. Je vous propose aujourd'hui un entretien qui nous fera nous émerveiller devant la capacité de l'être humain à surmonter les plus grandes épreuves qui se dressent parfois sur notre route. En 2023, Amandine Groco a survécu à une violente agression conjugale qui lui a presque coûté la vie. L'été suivant, elle se lance sur le chemin de Compostelle, seule, pour se reconstruire, exercice qu'elle répétera l'année suivante pour enfin retrouver le bonheur de vivre et la paix intérieure. C'est d'ailleurs en marchant sur le Camino que lui est venue l'idée de raconter sa traversée du désert en mots et en images dans un ouvrage intitulé « Violente tendresse, plus jamais nous ne fermerons nos gueules ». C'est ce qu'elle partage avec nous lors de cette émouvante conversation où j'ai pu constater la sagesse qui habite aujourd'hui une femme admirable, attachante et tout à fait adorable. Alors bonne écoute et bonne réflexion. Bonjour Amandine et merci beaucoup d'être des nôtres pour nous parler de votre livre « Violente tendresse, plus jamais nous ne fermerons nos gueules » et surtout des deux Compostelles qui vous ont permis de renaître.
Absolument. Merci beaucoup Denis. Je suis heureuse d'être là.
Alors si nous parlions tout d'abord de votre parcours de vie en France avant que vous veniez au Québec.
Merci. Très rapidement, je suis arrivée au Québec alors que j'avais 22 ans. J'étais en couple avec un homme à ce moment-là qui avait des amis québécois qui nous avaient invités un an auparavant à venir découvrir Montréal. Moi, c'était la première fois de ma vie que je prenais l'avion.
Oh.
Et ça a été un gros coup de cœur. On est arrivé à la saison des couleurs en plus, au mois de septembre.
Oui.
Et... ni lui ni moi ne voulions remonter dans l'avion à la fin de la semaine. Alors on a décidé de faire un permis vacances-travail pour venir s'établir à Montréal.
Et c'était en 2012, n'est-ce
pas ?
C'est
ça, oui. Et on est arrivé juste après Noël 2012, donc c'était le jour de la plus grosse tempête de neige depuis les années 70. On a eu 40 cm de neige pour nous accueillir, c'était merveilleux, nous on adorait ça. Et puis ça a commencé une belle histoire d'amour avec, avec le Québec. Bon, je me suis séparée avec, avec cet homme-là depuis, mais j'ai choisi de rester sur place. Alors, j'étais encore une jeune femme à l'époque, je ne savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Et je me suis donné une chance, comme j'avais toujours rêvé d'être couturière. J'ai démarré ma vie professionnelle en tant que couturière sur chaîne de production.
Et vous étiez artiste aussi ?
Ah, j'ai toujours été artiste.
Toujours, oui.
Ouais. Je dessine depuis que je sais tenir un crayon. J'ai toujours beaucoup écrit. J'ai toujours des carnets de notes partout avec moi. Donc oui, ça a toujours été là.
Et en 2021, un coup de foudre.
Oui, complètement inattendu. Fin de l'année, début décembre 2021, je suis en train de monter ma business. Une journée où j'ai pas du tout envie de travailler sur mon plan d'affaires, mais où je me donne une mission de le faire quand même. Où je prends mes affaires pour aller m'installer dans un café de quartier. Et ce jeune homme est là, m'attend comme à la sortie du cinéma. Il commence à me parler et je tombe le cul par terre. Je ne m'attends pas du tout à une connexion aussi instantanée et profonde. Et oui, ça a été un gros coup de foudre.
Ouais, et ça a mal tourné éventuellement, c'est ça ?
C'est ça, ça a très mal tourné. Mettons que... ça a été une relation un peu fulgurante, je dirais. On s'est rencontrés, on s'est plu instantanément, on s'est fiancés en 2 semaines. Alors, à ne pas faire, hein, ça je l'ai appris bien plus tard. Et monsieur était toxicomane très avancé. Donc, Il y avait beaucoup, beaucoup de stress et de tension dans nos journées. Il disparaissait pendant des journées entières. Il consommait tout et n'importe quoi qui lui tombait sous la main. Mmh. Moi, j'étais en grande dépendance affective parce que j'ai essayé de le mettre dehors à plusieurs reprises et je l'ai accueilli à nouveau à bras ouverts quand il rentrait à la maison. Ça a duré un peu plus d'un an. Jamais plus de violence que ça à la maison, mais bon, de l'intensité, pas à peu près.
Oui.
Et puis un matin, il s'est réveillé en janvier 2023 et il a décidé de me casser la gueule. J'ai jamais compris d'où ça venait, mais ça s'est très mal fini. Donc oui, relation explosive.
Oui, oui, et vous y avez presque laissé votre peau.
Ça, oui.
Ouais. C'était violent.
C'était très violent. À l'hôpital, ils étaient très surpris que je n'ai aucun os de fracturé. Merci maman, j'ai les os solides. Mais il y avait du sang partout dans l'appartement. Puis, mais monsieur, là, on est début 2026, il est sorti de prison aux deux tiers de sa peine. Il a pris un 4 ans au fédéral pour ce qu'il m'avait fait.
Ah oui.
Donc la fin de sa peine, c'est en juin 2027. Là.
Donc c'était très sérieux.
Oui.
Et il y a eu des séquelles, bien sûr, des séquelles physiques et surtout émotives.
Surtout émotives, oui.
Oui.
Et là, ça fait un peu plus de 3 ans que c'est arrivé, alors qu'on est en train de se parler, et je suis encore en rétablissement progressif. Donc c'est un accueil de tous les jours. Oui.
Alors, c'est un peu Compostelle qui vous a permis de renaître ou de retrouver la santé physique, morale et ainsi de suite. Mais comment vous avez décidé cette grande aventure qu'est Compostelle?
Oui, en effet, c'est un investissement physique et temporel assez important de partir sur les chemins de Compostelle. Je trouve l'histoire assez drôle parce que c'est donc monsieur qui a fini par m'agresser, qui m'avait parlé de Compostelle. La première fois, moi, j'en avais jamais entendu parler. Et lui, c'était un de ses projets de vie.
Ah oui.
De partir faire Compostelle. Et on s'était renseigné, on est allé voir un film au cinéma Beaubien. En novembre 2022, c'était Marcel Leboeuf qui,
qui présentait. Ah oui, c'est ça, oui.
Magnifique. Et on se préparait.
Et le titre, tiens, pour nos auditeurs, là, le titre, je crois que c'était Compostelle, le mythique Camino français.
Oui,
c'est ça.
Oui, oui, oui. C'était un documentaire réalisé par Jean-François Fournier, c'est ça.
Oui.
Et on a, mon fiancé et moi, à l'époque, on est complètement tombés en amour avec projet.
Oui.
Et on se préparait à partir en Europe pour aller voir ma famille et pour partir sur les chemins de Compostelle à l'été 2023.
Oui.
Et voilà qu'au mois de janvier, il décide de péter sa coche.
Oui.
Fait que lui, il se retrouve en prison. Moi, je me retrouve en rétablissement, à ne pas savoir ce que je fais de ma vie. Et je me suis dit, qu'à cela ne tienne, je vais partir, pareil, sur les routes de Compostelle. Puis je vais y aller toute seule d'abord.
Toute seule, oui.
Ouais.
Et pourquoi? C'était pour peut-être évacuer tout ça, cette mauvaise expérience.
À la base, ça partait d'un sentiment un peu plus revanchard, je disais.
Ah, oui.
Parce que c'était comme, tu m'as cassé la gueule, moi je suis encore là, t'es en prison, moi je vais sortir d'abord.
Oui.
Hein, ça a été beaucoup pour me montrer que j'avais encore du pouvoir sur les choses et que je pouvais me relever puis continuer à faire mes choix pour moi. Parce que dans cette relation, je m'étais beaucoup oubliée.
Oui.
Donc là, c'était comme, non, mais je décide de le faire pour moi. Puis j'avais beaucoup de choses à exorciser, puis c'était des émotions à passer. Puis je me suis dit, aller marcher seule pendant une 30-40 de jours, je pense que ça va me faire du bien, ça va me remettre les idées en place.
Oui. Et vous l'avez fait toute seule, c'est ça, là?
Oui.
D'accord.
Oui, seule avec mon sac à dos.
Oui, oui. Et dans le sac à dos, il y avait un petit carnet pour prendre des notes.
Oui, toujours. Toujours.
Toujours, hein?
J'ai toujours de quoi écrire, même si c'est un tout petit stack de post-it avec un crayon à mine dans le fin fond d'une poche. Il faut que j'ai de quoi écrire tout le temps.
Oui, oui.
Et sur mon premier Compostelle, j'avais fait exprès, je m'étais rajouté des poches sur mon pantalon. Pour pouvoir...
Ah oui.
Ouais. Mais je suis couturière à la base, hein, donc c'est ça, c'était les petites updates du costume avant de partir. Je m'étais rajouté des poches sur le côté de mon pantalon pour avoir le carnet à portée de main et le crayon dans l'autre pour que je puisse m'arrêter au beau milieu du chemin.
Oui.
Écrire ma pensée, remettre ça dans les poches, puis repartir.
Alors, dégainer rapidement.
Absolument. C'est une question de vitesse pour pouvoir saisir l'idée avant qu'elle s'en aille.
Ouais. Mais je suis curieux, vous écriviez davantage au début, progressivement, vers la fin. À quel moment vous sont venus, en fait, vos sentiments, vos émotions
Ça, c'est toujours très progressif parce que l'inspiration, tu ne sais jamais d'où elle arrive. Donc ça peut être, tu sais, je viens de rencontrer quelqu'un sur le chemin qui m'a dit une phrase et puis ça a peut-être déverrouillé une zone de mon cerveau dont j'avais pas conscience, puis il faut que je le prenne en note. Puis c'est comme si j'avais tout le temps des réflexions en arrière de ma tête qui sont, tu sais, des questions ouvertes maintenant.
Oui.
Puis que des fois les réponses elles se téléchargent toutes seules, puis c'est pouf, faut que je l'écrive.
Oui.
Voilà, c'est ce genre de...
Vous avez un exemple de questions ouvertes là qui vous sont venues peut-être qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai réagi? Je ne sais pas.
Quand j'étais plus proche de l'agression, c'est sûr, c'était beaucoup. Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi?
Ouais.
Pourquoi? Ça, c'était la grosse question. Pourquoi?
Et pourquoi? Ouais.
Voilà, pourquoi? Ça, quand même, assez rapidement, je me suis dit que j'allais jamais avoir la réponse. Donc, ce n'est pas là-dessus que j'écrivais.
Intéressant, oui.
Mais c'était beaucoup plus des prises de conscience de... Justement, de m'observer, comment je réagis à une situation, quelles sont les émotions qui font surface. Arriver aussi à me divertir de la douleur physique, parce qu'avoir des ampoules aux pieds quand tu fais presque 30 km par jour, là, c'est l'enfer.
Oui,
c'est
ça.
L'enfer. J'avais parlé avec un pèlerin sur la route, d'ailleurs, je disais, ouais, tout le monde est égal devant la mort, c'est pas sûr, mais tout le monde est égal devant les ampoules aux pieds, ça c'est une certitude.
Parce que vous avez marché presque, en fait, une moyenne de 30 km par jour. Vous l'avez complété en 29 jours. C'est,
oui.
C'est presque un record.
J'ai pas fait exprès. En fait, comme je partais d'une place dans ma vie où, ben justement, je venais de manquer, de perdre la vie à cause de la personne la plus proche de moi. Pour se relever de ça, c'est quand même quelque chose. Puis... Moi, je pensais jamais être capable de marcher un 40 jours. Tu sais, puis je m'étais renseignée, je suis allée voir sur Internet, avec le documentaire aussi. Et je ne me sentais pas capable de marcher autant de jours consécutifs sur autant de distances, parce que j'avais jamais fait ça de ma vie.
Oui.
Puis je me considère pas comme quelqu'un de particulièrement sportif non plus.
Oui.
Même si, tu sais, j'ai une bonne constitution, mais je l'entraîne pas trop, tu vois.
Mais vous étiez en forme quand même.
J'étais quand même en forme, ouais.
Oui.
Mais... Bon, j'avais des doutes. J'avais des doutes avant de partir. Voilà. Donc, je m'étais dit, bon, les gens font ça dans une moyenne de 30 à 40 jours. Je vais prendre mon temps. Je vais me donner la chance de démarrer doucement pour voir si j'y prends goût, parce qu'il y a toujours le risque que j'y arrive pas jusqu'au bout. Tu sais, je partais déjà
absolument.
Avec, voilà, pour éviter d'être trop déçu non plus si ça, si j'arrivais pas à le compléter. Mais je me suis prise au jeu. Et la première étape, quand on fait ce chemin-là en particulier, des chemins de Compostelle, il y en a autant que de personnes qui le font. On peut partir de n'importe où en Europe, voilà, ça converge tous vers le même point. Moi, j'ai choisi de faire le chemin qui s'appelle le Camino Francés. Donc, qui fait à peu près 800 km entre Saint-Jean-Pied-de-Port dans les Pyrénées françaises jusqu'à Santiago de Compostela, donc qui est plus à l'ouest de l'Espagne. Donc c'est un parcours dans le nord de l'Espagne à travers différentes topographies quand même. La première étape quand on part de Saint-Jean-Pied-de-Port en France, c'est de monter et de redescendre les Pyrénées. C'est une étape de 25 km. C'est le premier jour et t'as un dénivelé de plus de 1600 mètres. Attache ta tuque, là. quand t'as jamais fait ça de ta vie, là...
Mais justement, oui.
Mon premier jour de mon premier Compostelle, j'ai mis 10 heures à aller passer les Pyrénées. Je te jure, j'étais morte.
Wow.
À la fin. Oui. Puis, tu comprends aussi les ampoules aux pieds.
Oui.
mais c'est ça. Comme j'avais un passé d'avoir été asthmatique dans ma jeune enfance, j'ai eu des crises d'asthme à répétition pendant très longtemps, des allergies qui m'affectaient beaucoup au niveau respiratoire. Fait que, hey, on manque d'air dans les Pyrénées, là, parce que tu prends de l'altitude.
Ça, oui, de plus en plus.
Donc, je prenais des pauses régulièrement Puis ben, j'allais pas vite, là, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui me passait à côté, mm-hmm. puis qui me demandait « ça va ?»« Ben oui, on fait aller ouais. !» Mais j'étais contente d'être là pour moi, puis de ne dépendre de personne.
Mm-hmm. Mm.
Et c'est en faisant les étapes à chaque fois, on a des étapes suggérées quand on commence un parcours pareil. Là, ça fait à peu près, mettons, 16 kilomètres entre telle ville et telle ville. On conseille ça pour faire une étape raisonnable. Mais quand je faisais les étapes qui étaient suggérées, je me rendais compte que déjà, j'arrivais avant l'heure qui était, le temps qui était indiqué
de passer
sur la route.
Mmh.
Puis il faut savoir qu'on avance à une vitesse d'à peu près 4 km/h.
Mmh.
Ça veut dire que si la prochaine ville est à 6 km, c'est pas gros 6 km, mais ça te prend 1h30.
Oui.
Fait qu'une fois que tu es arrivé à ton étape suggérée, est-ce que tu as encore 1h30 d'essence dans les pattes pour te rendre à la prochaine ville
oui.
avant de dormir puis de t'occuper de tes besoins essentiels?
C'est ça, oui.
Ça, c'était toute une considération de gérer mes niveaux d'énergie.
Vous avez bien calculé quand même. Hein?
Ah oui, puis tout s'est fait à l'instinct.
À l'instinct.
Ouais.
Ouais.
Puis il y a beaucoup de monde que j'ai croisé sur le chemin qui réservait en avance pour arriver, pour être sûr d'avoir la chance de dormir dans telle auberge en arrivant.
C'est ça.
Moi, je n'ai jamais appelé une seule fois sur le trajet. J'ai toujours eu de la place. Quand on fait confiance, on a.
Ouais.
J'ai quand même assez vite compris que je trouvais toujours tout ce dont j'avais besoin au moment où j'en avais besoin sur le chemin. Il y a un petit proverbe quand on est sur le chemin. Bon, moi, je l'ai entendu en anglais, fait que je vais le dire comme je l'ai entendu là, mais The Camino provides.
Oui.
Mm-hmm. Ça veut dire, on a toujours, c'est ça, tout ce dont
c'est
on
ça,
a
la
besoin.
La providence.
Oui. 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 La providence du chemin.
Mm-hmm.
Mm. La deuxième année, quand je suis repartie sur Compostelle,
oui.
Mon premier jour, la première étape des Pyrénées, j'ai choisi de la faire en deux fois, parce que là, j'avais compris ma leçon. Et je me suis arrêtée à mi-chemin.
Mm-hmm.
Il y a deux auberges dans les Pyrénées. Mm-hmm. Il y a juste deux auberges. Il y a Orisson, qui est la première. Mm-hmm. Puis, 1,5 km plus loin, il y a Borda.
J'aimerais qu'on y revienne un peu plus tard, parce que j'aimerais compléter le premier. Vous avez tellement de belles choses à dire.
Mm-hmm.
Et me parliez, juste avant l'entrevue, du plaisir de marcher que vous avez découvert.
Oui,
c'est ça?
Absolument.
Oui.
J'ai toujours été beaucoup plus une exploratrice qu'une touriste.
Mm-hmm.
Quand je suis arrivée à Montréal en 2012... J'ai pris le temps d'explorer mon quartier à pied. Puis, je n'avais pas de véhicule non plus.
Mmh.
Donc, c'était une manière de me déplacer, mais je voulais connaître, me repérer. J'ai toujours eu un excellent sens de l'orientation. Ça, c'est très chouette. Donc, j'arrivais dans un quartier, puis je prenais le petit truc qui me tentait. Je regardais, OK, qu'est-ce qu'il y a comme boutique? Qu'est-ce qu'il y a comme, comme restaurant? Où est-ce qu'on peut manger? Qu'est-ce que... Tu sais, l'ambiance, l'architecture.
Oui.
Ouais. Écoute, moi je baigne dans l'architecture depuis que je suis petite, puisque ma mère avait énormément de livres sur le sujet, puis elle a fait sa carrière là-dedans aussi. Donc j'ai toujours été très sensible au paysage culturel, historique aussi, fait que sur le chemin de Compostelle, c'est merveilleux tout ce qu'on découvre en marchant là. Et me reconnecter à mon souffle aussi, qui est quand même la base, hein. c'est grâce à notre respiration qu'on est vivant.
Oui.
Puis non seulement c'est très cyclique quand on marche, donc ça nous permet à nous reconnecter au mouvement normal de la vie, des choses, le principe de la répétition aussi, mais sans forcer, mais de me reconnecter avec la chance d'être encore en vie, puis de pouvoir encore respirer. Ben oui, ça c'est j'étais en pleine gratitude.
C'est une grande libération là.
Oui.
Et c'est une grande expérience spirituelle.
Oui, vraiment. Ouais. À date, j'ai toujours été quand même assez connectée avec plus grand que moi, on va le dire comme ça là. Il y en a qui l'appellent Dieu, il y en a qui l'appellent l'univers, la source. On a toute notre manière de l'expérimenter, mais on parle tous de la même chose.
Oui.
Mais ce plus grand que soi, à l'intérieur, moi, je m'y suis vraiment connectée quand j'étais sur Compostelle, dans mon premier. Parce que le fait de se concentrer sur les essentiels, comme ça, ça enlève tout le superflu autour. Et là, la connexion, elle est au débit, là, dans ce temps-là.
Donc, elle moi, est directe.
Oui. Oui. Moi, j'étais toute seule. Il y a une portion du chemin qui s'appelle la Meseta. Donc, c'est un immense plateau entre les montagnes, dans le nord de l'Espagne. Et c'est plat. Mais c'est plat, là. Bon, c'est vallonné parce que tu as des champs et tout, mais tu as la route en petite gravelle blanche. Là. Il y a le bruit de tes pas, ton sac à dos, le ciel au-dessus de toi et des champs de tournesol à perte de vue.
Magnifique.
Oh là là, c'est incroyable. Il y a des gens qui redoutent ce passage-là parce qu'ils sont seuls avec eux-mêmes. Ils ont horreur de ça.
Voilà.
Ah, moi, c'était ma partie préférée. Et, oh là là, ouais, j'ai des souvenirs, j'ai des images, mais être toute seule dans cette immensité, tu vois pas les choses bouger, mais t'es en train d'avancer quand même. Et tu te dis, mon Dieu, mais je suis pas tout seul, c'est pas possible. Je me sens tout petit.
Et je pourtant, suis pas tout seul dans l'univers, là.
C'est ça.
Oui.
Tu te sens minuscule et pourtant t'es connecté avec tout le reste. Puis si ton regard est capable d'embrasser la totalité du ciel, c'est quand même une chance de pouvoir expérimenter ça. Ouais, ça a commencé à faire changer des choses. Puis je pense que la première, ça a été de me dire, ben, je pense que je peux faire confiance à la vie, en fait.
Oui. Et vous avez rencontré des anges.
Oh oui. Oh là là, il y en avait partout, partout. Ce que j'appelle des anges, c'est des rencontres inattendues, mais qui nous apportent exactement ce dont on avait besoin sur le moment.
À ce moment-là, oui.
Ouais, ça peut être des rencontres de quelques secondes, ça peut être des rencontres de quelques jours. Mais c'est tellement fugace qu'on ne peut que en jouir sur le moment. Parce que ça va partir de toute façon. Puis c'est là, genre, t'as pas intérêt d'être sur ton cellulaire pendant qu'il y a quelqu'un qui est en train de te parler. Là, sur le chemin, ça fonctionne pas comme ça. Et la connexion avec le monde, comme on est tous des pèlerins, qu'on est tous en train de marcher pour aller vers la même destination, il y a une camaraderie qui m'a fait énormément de bien. Parce que ça, depuis que je suis toute petite, j'adore les gens. Je cherche le contact visuel, et puis tu sais, je voudrais faire des câlins à tout le monde, là, tu sais, pour caricaturer. Là. Bon.
Oui.
Sur le chemin, il y a ça. On est tous des enfants. Parce que c'est tellement simple ce qu'on a fait. On doit marcher, boire, se nourrir, dormir, se reposer.
L'essentiel.
C'est les essentiels. Il n'y a rien d'autre qui compte, là. Et comme on se... Ça m'a vraiment marqué parce que quand on rencontre quelqu'un sur le chemin, on parle jamais de qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Jamais. On ne se définit pas par notre profession. Ça, on le fait beaucoup trop dans notre monde moderne. T'es qui, tu fais quoi?
C'est ça, tu fais quoi surtout, ouais.
Voilà. Non, mais ça n'a pas lieu d'être sur le chemin. C'est comme, hey, t'es-tu correct? T'as-tu besoin de quoi? Petite anecdote, un ange en particulier. Je me suis fait piquer par une bestiole sur mon premier chemin de Compostelle, sur la cuisse, ça me faisait vraiment souffrir. Je m'arrête, je dépose mon sac à dos à la prochaine ville. Je commence à me masser ça, puis moi j'avais rien, j'avais juste de l'aloe vera pour soulager mes coups de soleil. Là. La personne à côté de moi, elle me sort le tube avec la crème dont j'avais besoin pour soigner la piqûre. J'étais comme, mais voyons donc. Voir que tu m'as suivi depuis le début, toi, c'est pas possible. On se pose des questions.
Oui, oui.
Mais ouais.
D'où la gratitude dont vous parliez tout à l'heure.
Ouais. C'est. J'aurais pu avec ce qui m'est arrivé en janvier 2023, j'aurais très bien pu rester en mode victime, genre ben là, je méritais pas ça, ah, Esti, heureusement qu'il est en prison. Je suis pas comme ça. Puis. De me dire que juste savourer le fait d'être encore en vie dans les plus simples détails, je respire, je peux voir le paysage qui est tellement beau autour de moi, je peux avoir des interactions pleines d'amour avec des gens que je connais pas puis que je reverrai jamais, Je sais que je vais dormir ce soir. Je sais que je suis protégée.
Oui.
Je suis safe. En fait, c'est ça. C'est la gratitude, elle est venue au moment où j'ai compris progressivement que j'étais en sécurité avec moi-même. Ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille encore aujourd'hui. Et depuis, merci mon Dieu, j'ai rencontré un homme avec qui je me sens en sécurité avant tout.
Oui. Vous êtes rayonnante d'ailleurs.
Merci beaucoup. C'est ça. Quand on se sent bien, on est beau. Hein. Tout le monde comme ça.
Oui.
C'est au moment où on se sent le mieux que là, on va attirer le monde puis que le monde va nous remarquer aussi.
Oui. Amandine, nous prenons une courte pause musicale et nous parlons de ce deuxième Compostelle et justement de ces auberges-là.
Absolument.
Nous sommes de retour avec Amandine. Amandine, le deuxième Compostelle s'est fait avec la petite Amandine.
Oui, absolument.
C'est délicieux.
Et oui. quand je suis revenue à Montréal après mon premier Compostelle, je me suis rendu compte que je l'avais fait pour me venger, entre guillemets, puis m'alléger de cet homme qui avait failli me tuer. Donc, il pesait très très lourd dans mon sac à dos, je l'ai laissé sur le chemin. Et quand je suis rentrée à Montréal, je me suis dit, bah oui, mais en fait, je ne l'ai pas fait pour moi. Ça a été une prise de conscience où, là, je me suis rendu compte que j'étais encore comme attachée à lui et je me suis dit que je voulais absolument refaire le même chemin, mais cette fois-ci avec moi-même, seule avec moi-même. Parce que j'avais vu beaucoup de places qui m'avaient beaucoup plu lors du premier. Et ça m'a donné envie de le refaire, mais cette fois-ci pour en profiter et pour me dire, ces places-là, je suis un peu frustrée d'être passée aussi vite dedans. J'aimerais bien plus explorer, pour le coup, plutôt que de m'enfuir à tout prix. Le premier, j'étais en mode survie plus. Donc, comme j'avais nettoyé mes traumas les plus récents, c'est ceux qui restaient en arrière depuis plus longtemps qui sont remontés sur le deuxième Compostelle. Je suis partie moins d'un an après.
Oui.
Okay. Et là, pour le coup, oui, c'est la petite Amandine qui s'est sentie suffisamment en sécurité pour remonter puis pour exprimer toutes les émotions qu'elle n'avait jamais pu laisser sortir, finalement. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré sur le deuxième.
Ah oui, donc à l'auberge, là, vous nous
par
parliez
exemple,
de l'auberge un tout petit peu plus tôt, là.
Oui, absolument, ouais. L'auberge Borda qui est dans les Pyrénées. Et ça, c'était un magnifique exemple de la Providence dont je parlais tantôt, parce que je me suis arrêtée pour prendre une pause dans les Pyrénées en sachant pas si j'allais finir cette première étape jusqu'au soir, mais cette auberge dans laquelle je me suis arrêtée juste pour prendre une pause, normalement, il faut réserver parce qu'il y a un nombre de places limitées.
Oui.
Et cette journée-là, il restait juste une place pour moi, alors que je n'avais pas réservé. Et monsieur, il s'appelle Laurent, la personne qui a repris Borda, qui en a fait une auberge pour les pèlerins. Et il m'a dit, waouh, c'est un magnifique exemple de la providence du chemin, tu as bien fait de t'arrêter. voilà, donc oui. Puis la petite Amandine, elle est ressortie un peu plus tard sur le chemin. Vu que je connaissais aussi déjà le chemin que j'empruntais, ça aussi, ça a créé de la sécurité parce que là, pour le coup, c'était rendu familier.
Oui.
Et j'ai pu me concentrer sur toutes les émotions qui ressortaient, justement. Donc oui, c'est émotionnellement, le deuxième chemin a été encore plus intense que le premier. C'est peut-être paradoxal, mais voilà, ça m'a permis d'aller plus profondément refaire le chemin en moi, en fait.
Il y avait un joli dialogue entre Amandine la petite et Amandine la grande.
Ah, tout le temps. Ah oui, c'est une affaire de famille. Hein. On se tient tous par la main. Oui, oui.
Mais comment ça se passait? Vous vous parliez à vous-même lorsque vous étiez petite, c'est ça?
Il y avait... Oui. Quand j'étais petite, je n'avais pas beaucoup d'amis. Donc, mes premiers amis, ça a été mes carnets de notes. Tu vois, c'est comme ça que ça a commencé un peu, d'écrire davantage. Donc là, il y avait des choses. Oui, je me parlais à moi-même sur le chemin. Je parle souvent toute seule.
Ah oui.
C'est, ouais, c'est, j'ai des amis imaginaires partout. Il y en a qui l'appellent Dieu. Bon, ben, c'est voilà. Hein. Ouais. Mais j'aime comprendre des choses, les formuler, les écrire, comprendre, détricoter les choses que je comprends. Enfin, c'est, voilà, j'ai une Ferrari dans la tête, là, fait que faut la canaliser un peu. Et l'écriture, ça m'aide beaucoup avec ça. Donc là, deuxième Compostelle, non seulement j'avais des carnets pour écrire dans les poches, mais j'avais aussi des carnets pour dessiner.
Voilà.
Voilà. Donc là, non seulement j'avais les stylos, mais j'avais aussi ma boîte d'aquarelle.
Oh, quand même.
Ouais, oui. J'avais pris ma petite boîte d'aquarelle, puis je m'arrêtais pour dessiner des affaires sur le chemin. J'étais toute seule au milieu du chemin.
Les paysages, des...
Oui, mon dessin le plus marquant que j'ai en tête, c'est une vue de la cathédrale de Burgos, qui est à peu près au milieu du chemin, puis c'est une capitale du chemin, du Camino Francés. Burgos, là, il y a une cathédrale de style gothique qui est époustouflante. Et je me souviens m'être assise dans des escaliers pendant une heure et demie avec ma petite boîte d'aquarelle en train de finir mon dessin. Puis encore à ce jour, c'est un dessin qui est précieux pour moi là, d'avoir pris le temps de faire ça.
Donc, le carnet de notes, toujours bien garni.
Oui.
Le carnet ou en fait le calepin pour les dessins. Et encore une fois, de belles rencontres.
Oui. Ah oui, vraiment. Les rencontres que j'ai faites sur le deuxième chemin... Ben, il y a quelques anges comme ça que j'ai rencontrés pendant mes deux Compostelles avec qui je suis encore en contact aujourd'hui.
Ah oui.
On s'est échangé les adresses courriels, puis on se donne des nouvelles de temps en temps. C'est des gens de partout dans le monde. J'ai connecté avec des gens qui étaient en Allemagne, en Australie, une Coréenne, très peu de Québécois d'ailleurs, très peu de Québécois, très peu de Français, mais ça parle... Ça parle le Frankenstein hein, sur le chemin, un petit bout d'espagnol. Ouais, ouais. Si tu connais de l'italien ou de l'allemand, t'es chanceux là, mais beaucoup beaucoup d'anglais. Puis voilà, c'est broche à foin, mais on se comprend.
Ouais, ouais.
Puis c'est ça, les énergies, on connecte avec le monde instantanément. On n'a pas d'attache en fait. Et je me souviens en particulier une soirée où j'avais vraiment besoin de vider mon sac dans le deuxième chemin là, et où j'ai demandé à ma comparse de chambre. Je lui ai dit, hey, là, j'aimerais ça pouvoir être écoutée. J'ai beaucoup de choses qui sont en train de m'arriver. Puis émotionnellement, est-ce que tu voudrais m'écouter? Voilà, puis on s'était posé toutes les deux.
Spontanément, comme ça.
Ouais. Parce que je sentais qu'il y avait une connexion. Tu le sens quand ça clique avec quelqu'un.
Ouais.
Tu le sens. Fait que je suis allée la voir, puis c'est vraiment passé. Et bon, il y a des éléments de mon trauma, de mon agression qui sont remontés, puis là où j'ai pu vider mon sac. Et c'était tellement spontané, tellement frais, puis ça coulait de source, et elle m'a fait tellement de bien sur le moment de reprendre confiance en l'être humain, me dire mais c'est pas parce que je me montre vulnérable qu'il va m'arriver des trucs douloureux après, là. Tu sais, c'est pas parce que je m'ouvre qu'on va me faire du mal ensuite. Ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille encore aujourd'hui, d'avoir été blessée dans le passé.
Ben oui.
Et ça vient soigner beaucoup de blessures à l'intérieur aussi.
Donc vous vous êtes ouverte, vous avez pleuré.
Ah
vous
oui.
Avez dans ses bras.
Oui.
Vous avez, oui.
Ah oui, oui. Oui, oui. Je préviens toujours le monde. Bon, quand je commence à parler, ça se peut que je pleure. Vous inquiétez pas. Tout va bien.
Et puis, est-ce qu'il y a eu d'autres anges, d'autres belles rencontres comme celle-là pour vous et pour la petite Amandine?
Écoute, il y en a eu sur Compostelle et il y en a eu depuis aussi, puisque je me suis rapprochée de l'Association du Québec à Compostelle.
Ah oui?
Ouais. Et il y a notre ami Denis Dumais, d'ailleurs.
Oui, grand ami de l'émission, là,
oh,
oui.
Écoute, il est extraordinaire, je l'adore. Lui, il a une excellente plume, d'ailleurs.
Oui.
Il écrit extrêmement bien. Et ben, quand j'ai écrit mon livre, je lui ai demandé d'écrire un petit mot qui figure d'ailleurs dans les premières pages, les témoignages après première lecture de mon livre.
Donc au niveau du message de ce deuxième Compostelle, la grande leçon de ce deuxième Compostelle?
Ouh!
Est-ce qu'il y a une révélation? Vous disiez tout à l'heure, on n'est jamais seul. Est-ce que c'est peut-être le grand message de ce deuxième Compostelle?
Je dirais que le grand message pour moi, ça a été de m'apprendre à me donner le temps de bien faire les choses.
Ah.
Ça sert à rien de tirer sur la salade pour la faire pousser plus vite. Ça, c'est un proverbe que j'aime beaucoup utiliser parce que je le trouve très pertinent. J'ai tendance à être beaucoup dans le contrôle, à vouloir faire arriver les choses parce que j'ai l'impression que je ne les mérite pas.
Oh.
C'est très insidieux, ça.
Oh, oui.
Fait que quand on se dit, ouais, mais je le sais que ça, ça va arriver puis que ça va être pour mon bien et pour le bien de toutes les personnes qui sont impliquées. Donc, on peut-tu se relaxer 2 secondes, là ? Puis prendre le temps de bien faire les choses plutôt que d'être tout tendu et tout.
Oui.
C'est comme quand tu es en retard à un rendez-vous puis que tu dois partir en 30 secondes et qu'il n'y a rien qui fonctionne. Tu n'arrives pas à mettre tes chaussures, tu ne trouves pas tes clés. Bon.
On échappe son ordi.
Par exemple.
Oui.
Tout arrive au bon moment. Les personnes, les situations, les opportunités, même le gravier dans ta chaussure, là, il est là pour une raison, tu vois.
Oui.
Fait que de comprendre ça après mon deuxième Compostel, ben ça m'a beaucoup aidé pour ma vie de tous les jours. Parce que ce qu'on dit sur le chemin, c'est que une fois que ton chemin de Compostel est terminé, c'est là que commence ton vrai chemin.
C'est comme Finistère, en fait, dont on parlait juste avant l'émission. Cet endroit magique où c'est pratiquement la fin du monde. Là. Vous pourriez nous en parler un tout petit peu, parce que ça vous a marqué.
Ah, oh, beaucoup.
En cette fin de premier ou de deuxième, ou les deux, Compostelle.
C'est ça. Quand on arrive à Santiago de Compostela, qui est proche de la côte ouest espagnole, il y a une extension du chemin de Compostelle qui va encore plus vers la côte ouest. Et il y a 2 villes en particulier qui s'appellent Fisterra, qui est un petit peu au sud. Ben, Fisterra, Fisterre, Finisterre, il y a plusieurs orthographes. Et celle qui est un peu plus au nord, c'est Muxia. Et en fait, ça fait comme un triangle. Et Fisterra, c'est la fin du monde. Donc c'est le point le plus occidental de tout le continent européen. Il y a un phare tout au bout de la jetée, là, avec une vue imprenable sur l'océan Atlantique. C'est magique. Tout le monde se réunit là. Et à chaque coucher de soleil, on est tous sur la falaise, là. On applaudit quand le soleil se couche. C'est magique. C'est magique. C'est un merveilleux paradoxe, parce que c'est la fin de la Terre. C'est la fin d'un chapitre, puisqu'on vient d'arriver après presque 30 ou 40 jours ou peu importe combien de temps de marche. Il y en a qui partent des mois, là. Et d'un autre côté, ça marque le nouveau départ. Maintenant que j'ai fini ça, bah, qu'est-ce que je recommence dans ma vie? Qu'est-ce que je prends comme leçon pour le réintroduire dans mon quotidien quand je reviens à ma vie un peu plus conventionnelle?
Ouais. C'est la renaissance.
C'est la renaissance, oui. Complète. Ouais.
On recommence une autre vie, ou en fait on poursuit la même vie, mais c'est une autre grande étape
voilà.
De la vie.
Voilà.
C'est ça.
Ouais. C'est comme si on revenait au même point, mais avec une meilleure perspective. Tu sais, c'est un peu une spirale comme ça, où on revient sur la même situation, mais avec davantage de prise de distance.
Oui.
Ça a fait du bien beaucoup.
Ouais. Et la petite Amandine, ça lui a fait du bien aussi.
Oh oui, oh oui. Ah là, la petite Amandine, elle est tellement ravie qu'elle saute partout maintenant.
Alors, Amandine la Grande, vous aviez votre carnet de notes et votre calepin à dessin, et ça vous a bien servi pour rédiger votre livre.
Absolument.
Alors, on en parle maintenant. D'abord, le titre.
Alors, c'est un ouvrage qui s'appelle « Violente tendresse, plus jamais nous ne fermerons nos gueules ». C'est un livre... Mais l'idée de l'écrire, ça m'est venu sur mon premier Compostel.
Déjà, oui.
Oui, oui, oui. Ça m'est venu spontanément parmi tous les téléchargements de l'univers que j'ai reçus, là.
Oui.
Et c'est un ouvrage que j'ai choisi d'écrire pour exorciser l'agression que j'avais vécue et pour montrer qu'il existe l'espoir de reprendre son pouvoir après avoir vécu des situations aussi difficiles que celles que j'ai traversées. Puis oui, Compostel joue un très très grand rôle à l'intérieur de ce livre dans les derniers chapitres.
Et vous pourriez nous en lire peut-être quelques extraits.
Mais oui, absolument. Mais j'en fais mention déjà depuis le début. Il y a un passage que j'aime beaucoup, ça c'était un poème que j'ai écrit la veille de passer au tribunal pour qu'il soit envoyé en prison. Et je parle du fait de partir à Saint-Jacques vers la fin. Et c'est un poème que j'ai mis dans l'introduction du livre. Auto-sabotage, ultime ménage, dans ta vie et dans la mienne, lié à jamais par les liens sacrés des cicatrices au cœur. Ma nuque qui se brise sous tes doigts avides, la douleur qui persiste dans tes orbites vides. J'ai entendu l'alarme cette fois. Adieu mon amour, 13 mois et 13 jours, réveil brutal. Dieu que ça fait mal de vivre hanté par les souvenirs, enfermé dans la cage de mes yeux qui te voient partout. Me reconstruire miette par miette, nettoyer goutte par goutte le sang séché sur mes espoirs déçus. Le goût désormais amer de la vie sans toi, mais une porte s'ouvre et je garde les clés. La lumière, mon amour, pas la peur. Sauver ma peau, m'élever enfin, enfin légère, vers l'endemain, plus coloré de joie de vivre. Saint-Jacques à pied, je mets les voiles, du noir naissent toujours les étoiles.
C'est merveilleux, c'est beau. Oui. C'est émouvant, je voile.
Merci.
Ça revient un peu, hein, c'est ça.
Oui, ça... Ça vient toujours me toucher quand je relis ce poème, parce que il y a toute l'essence de ce que j'ai vécu à l'intérieur. C'est parce que je lui en veux de m'avoir fait aussi mal, là, c'est sûr. Mais le fait d'avoir pris de la distance, d'avoir repris mon pouvoir, je veux dire, j'ai fait 1800 km à pied en moins d'un an. Ouais. Après avoir vécu ça... Je me trouve très très haute, hein, on va se le dire, mais c'est juste pour prouver que on a beau vivre n'importe quoi dans la vie, quand on le décide, on peut se reconstruire pas à pas. Et ma psy, qui m'accompagnait après l'agression, elle me dit, mais il n'y a pas de trop petits pas. Un pas est un pas. Et ça, je m'en suis vraiment beaucoup souvenue dans les Pyrénées, parce que ça monte. Ça monte beaucoup.
Les petits pas.
Voilà, les petits pas m'ont sauvé la vie, ouais, oui. Vraiment.
Un autre extrait, peut-être.
Alors, ceci, parce que c'est ça, la petite subtilité, c'est que ce pèlerinage, bah, c'est lui qui m'en avait parlé.
Oui.
Donc, un extrait, page 239. « Dans les quelques mois qui ont suivi l'agression et après de nombreuses années de démarches administratives, j'ai aussi eu la chance de réussir l'examen qui m'a permis d'obtenir ma citoyenneté canadienne, et ce, peu de temps avant de comparaître au tribunal. J'allais enfin avoir mon passeport. Quel symbole ! Cet événement d'autant plus marquant vu le contexte a été le point de départ d'un projet complètement fou que je nourrissais depuis déjà un moment et qui me sembla alors s'imposer de lui-même pour poursuivre mon rétablissement, aller marcher sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'était lui qui m'avait parlé de ce pèlerinage pour la première fois. C'était son rêve de le faire et l'idée m'avait séduite. Nous avions regardé plusieurs reportages sur le sujet et étions même allés à la projection d'un film sur le Camino Frances, dont on a parlé tantôt. Au cinéma Beaubien en novembre 2022, notre décision était prise, nous nous préparions pour le faire ensemble à l'été 2023. Et voilà qu'il m'agresse entre-temps et qu'il se retrouve en prison. Qu'à cela ne tienne, je décide de le faire pareil, pour moi, comme un énorme fuck you. Pardonnez mon langage, mais c'est ça que j'ai écrit dans le livre.
Oui.
Voilà, c'était vraiment une revanche. Le premier, ça a été une revanche.
Mmh.
Voilà. Le premier, je me suis adoucie un peu, puis bon, voilà, j'ai préféré approfondir un petit peu, mais c'est... Ouais. C'était ça.
Et le deuxième, c'était la dimension plus spirituelle, la renaissance et tout.
Oui. Oui. Voilà. Pour me refaire une bonne fondation avant de revenir.
Pour bien repartir.
Revenir. Absolument. Oui.
Et encore un extrait, je crois.
Mm-hmm. Alors, oui, je pense que celui-ci concerne bien la marche. Marcher a dissous mes lunettes. Je vois clair maintenant. Toute la beauté du monde, mais aussi les ficelles qui la sous-tendent. M'éloigner de toi, pas après pas, forêt après bois, sans regarder derrière. Toujours vers l'avant désormais, toujours. Et je vois clair dans la pénombre, plus d'attache. Nous n'étions pas faits pour aller plus loin ensemble, même si nous étions faits du même sang d'étoiles. Encore un deuil, adieu, pas au revoir. La certitude s'infiltre un peu plus en moi tandis que je me redresse et que je relève le nez vers les senteurs marines que m'amène le large. Oh, cette plage, le sable entre mes orteils, me faire enfin oublier ce parquet dur et froid. Aujourd'hui, lorsque je ferme les yeux, c'est pour laisser les embruns me nettoyer.
Ah, très joli, oui. Avec du recul, Amandine, vous avez réussi votre pari avec le livre d'exorciser, de tout vider,
ouais.
De faire le point.
Mmh. Ouais. Oui, puis c'est encore un chemin en cours. C'est
oui.
le mouvement n'arrête jamais.
Mmh. Oui.
Et je me sers de cet ouvrage pour faire des prises de conscience collectives.
Mmh.
oui. beaucoup. Je donne des conférences, des ateliers. Je suis en train de faire une formation pour apprendre à gérer nos émotions davantage.
Oui.
Il y a énormément d'accompagnement qui est fait autour des victimes de violences conjugales.
Justement, oui.
Mais il y a très peu de prise de conscience pour les agresseurs.
C'est ça. Et ce que j'ai trouvé admirable dans votre cheminement, c'est que vous suggérez que votre livre et peut-être d'autres écrits du genre soient répandus dans les bibliothèques des établissements carcéraux, justement, parce qu'eux oui. aussi ont besoin.
Oui, absolument. On évolue toujours plus vite quand on a différentes perspectives complémentaires en face de nous. Ouais. Ça aide à élargir les horizons quand même. Et ces personnes qui se retrouvent en prison parce qu'ils ont fait du mal autour d'eux, mais ça vient avant tout d'une souffrance épouvantable qui traîne en eux, puis qui ne savent pas comment exprimer.
Oui.
Et j'avais discuté avec des intervenants en violence conjugale qui se sont occupés autant de personnes qui ont agressé du monde que de personnes qui ont été agressées par du monde. La souffrance de base, c'est toujours la même. C'est fascinant. Et je me rends compte que ça part d'un vide ou d'un manque émotionnel épouvantable à la base, qui s'exprime différemment. Il y a du monde où ça s'exprime par un désir de vouloir tout contrôler et puis de garder la personne dans sa possession. Ou alors, on a envie de se faire posséder et puis de plus penser à rien parce que la vie est trop dure. Moi, j'ai fait partie de cette gang-là, de me considérer comme victime. C'est pour ça que j'ai attiré quelqu'un comme ça.
Oui.
Mais voilà, donc me sortir de là... Écrire, c'est extraordinaire. Aller marcher, c'est très très bon aussi. Et chaque personne qui reprend son pouvoir a sa manière précise de se faire du bien, de créer. Après tout, c'est que... Le but du jeu, c'est de créer finalement. C'est de faire de la création pour se faire du bien émotionnellement, pour voir qu'on arrive à produire quelque chose, pour se sentir fier de soi aussi. Mais aussi pour faire du bien autour du monde, parce qu'on est tous interreliés. C'est ça que j'ai beaucoup appris sur Compostelle aussi, c'est qu'on a beau être toute seule dans notre petite bulle, les gens qui nous passent autour, ils vont nous dire « Buen camino,
oui.
todo bien ?» C'est la sollicitude, la bienveillance, on est là pour s'entraider, je suis là pour t'aider si t'as besoin. Puis, quand on prend soin de soi en premier comme ça, c'est à la suite de ça qu'on peut laisser s'exprimer nos talents naturels pour aider le monde.
Oui. Ben justement, vous dites aussi, le livre, je l'ai vu comme une mission de vie à honorer, puisque j'avais eu la chance de rester vivante malgré l'horreur.
Oui, oui. Ça fait partie des prises de conscience que j'ai eues le plus tôt après l'agression. Quand je me suis rendu compte que j'avais eu de la chance de rester en vie, je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai pas vécu tout ça pour rien. Il faut que j'aide le monde avec ça. Si moi, après être passé à travers ça, j'ai réussi à rester là, que je suis en assez bon état pour transmettre le message, ben je vais le faire.
Oui. Et donc, vous le faites par le biais de votre mission de vie.
Oui.
Ben c'est quoi votre mission de vie, si on les décrivait ensemble?
Ma mission de vie, c'est d'utiliser tout ce que je suis pour que le monde bouge dans le bon sens. Je trouve que elle est très simple, ma mission de vie, mais j'ai encore du mal à l'exprimer parce que c'est une question que je me pose tous les jours.
Vous la vivez, mais de là à l'expliquer, c'est autre chose. C'est
voilà. C'est peut-être que je n'ai pas encore très bien compris le concept parce que sinon, je serais capable de l'expliquer. Là, mais je me dis, si je suis née avec mes capacités intrinsèques, que je les développe, que j'arrive à faire du bien autour de moi, tu sais... C'est tellement satisfaisant de me dire « Ah, j'ai fait du bien dans la vie d'une personne aujourd'hui.
» Oui.
Mais j'ai envie d'avoir ce genre d'émotion-là, puis de...
Tous les jours.
Voilà, de me dire que j'ai eu une influence positive du mieux que je pouvais avec mes capacités pour aider quelqu'un, puis pour élever le collectif et puis les émotions et tout. Je me dis que j'ai des choses à dire. Qui peuvent toucher le monde aussi. aussi partager l'amour, ça reste une mission de vie, sous toutes ses formes. Hein.
Oui.
C'est, tu sais, ça peut être ramasser un déchet par terre, c'est de l'amour aussi.
Envers soi-même, envers l'autre.
Bien sûr.
Oui.
Bien sûr.
Oui.
Si, si on part du principe que on est tous interreliés, qu'on est tous interconnectés, un mouvement dans le bon sens pour moi-même, ça va être un mouvement dans le bon sens pour la personne d'à côté qui va en bénéficier aussi.
Oui.
Fait que toujours essayer de penser à qu'est-ce qui viendrait nourrir mes besoins à moi et par la même occasion qui viendrait faire du bien à tout le monde qui est autour. Alors j'en suis là de mes réflexions pour l'instant, mais
ouais.
C'est ça.
Et vous avez créé la Maison Groco. C'est quoi?
Oui, Maison Groco, c'est le nom de ma compagnie que j'ai fondée en septembre 2022. À la base, c'était une maison de couture. Donc j'ai fait beaucoup de sur-mesure. Là, je suis en train de développer une ligne de prêt-à-porter qui va être plus facilement accessible. J'ai donc ce livre-là, avec les conférences qui viennent avec. Je fais des illustrations, des peintures. J'ai beaucoup de plumes à mon chapeau et c'est ça, je travaille à concentrer mes énergies vers des choses un peu plus simples pour l'instant. Donc, c'est très organique pour l'instant, mais
oui.
Maison Groco, c'est... Le but de la compagnie, c'est d'aider le monde à exprimer leur personnalité,
oui.
À se sentir bien dans leur peau, à se sentir bien dans leur corps, avec l'art qu'ils exposent chez eux aussi, venir les toucher. Je travaille beaucoup dans l'émotionnel, puisque c'est le fil rouge
c'est
qui nous
trame,
relie
c'est
tous.
Ça, oui.
Voilà.
Oui. Et il y a une partie des profits de la Maison Groco qui sont versés justement à des œuvres caritatives ou communautaires dans
voilà.
Le cadre de votre mission, c'est
oui,
ça?
Oui, absolument. Oui. Donc, quand je vends des exemplaires du livre... Maintenant, il est disponible sur Amazon aussi. Et quand j'en avais fait imprimer 300 exemplaires quand je l'ai autopublié. Donc, les profits que je touche en vendant ce livre, j'ai un petit pourcentage qui va justement à des organismes de charité qui s'occupent d'aider les personnes qui sont dans des situations comme ça. Donc, aussi bien pour les victimes, que pour les agresseurs, que...
Oui.
Tu sais, j'avais réussi à donner plus de $300 à trois organismes différents. Il y avait la Maison Jean Lapointe, qui offre beaucoup d'accompagnement pour les personnes qui souffrent de dépendance. Il y avait Écoute Entraide, qui est un service communautaire dans le quartier Rosemont-la-Petite-Patrie, où j'habitais à l'époque, à Montréal, qui offre des formations sur la gestion des émotions, par exemple la gestion de la colère, oser être soi-même, ce genre de thématiques, qui offre des groupes de discussion aussi pour les hommes, pour les personnes endeuillées aussi. Ils ont tout un choix de services pour faire du bien à la collectivité. Et le troisième organisme, c'est une maison d'hébergement pour femmes, qui est à Sainte-Thérèse, qui s'appelle le Mi-temps, où j'ai eu la chance de passer les deux premières semaines après l'agression pour m'offrir une petite bulle hors du temps pour me permettre de me soigner. Donc ces trois organismes-là, j'ai réussi à les aider à hauteur de un peu plus de $300 chacun grâce aux ventes du livre.
C'est formidable. Amandine, est-ce qu'on a enfin retrouvé la paix?
Oui.
Et comment on se sent?
C'est tout doux, ça coule tout seul. C'est très agréable de travailler là-dessus à chaque journée. C'est une mission de vie en tant que telle. Je me demande toujours, est-ce que ce que je suis sur le point de faire va m'amener la paix d'esprit? Parce que à partir du moment où on s'offre la paix d'esprit, on a accès à tout le reste. Pour moi, c'est le centre, c'est de revenir au centre, de me dire, peut-être que cette situation, elle est plus difficile que les autres. C'est un peu plus difficile, mais qui on choisit d'être dans les moments où c'est plus difficile? Ça, c'est très révélateur du caractère aussi. Et moi, d'avoir publié ce livre, d'être sur ma mission d'aider le monde grâce à mes talents, de parler, d'écouter le monde aussi qui viennent me voir, qui me racontent leurs histoires, ben ça m'amène la paix parce que je me dis que je fais quelque chose de bien dans le monde. Fait que voilà, c'est aussi pour ça que je viens partager ma parole ici, dans cette émission.
Et je vous en remercie beaucoup. Et je rappelle le titre de votre livre, « Violente tendresse, plus jamais nous ne fermerons nos gueules ». Amandine, merci tellement d'avoir été avec nous aujourd'hui et bon cheminement.
Merci Denis, merci beaucoup.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je tiens à remercier de sa participation Amandine Groco. Merci également à Jérôme Costigan à l'enregistrement et au montage. Et merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour Marcher vers le bien-être. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé les mardis à 22h et rediffusé les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez aussi l'écouter en direct sur le site de Radio-VM ou en différé sur le site jemarchepartout.com où vous trouverez descriptifs et références pour tous les épisodes. Un moteur de recherche vous permet d'ailleurs d'y trouver rapidement les sujets qui vous intéressent et de télécharger les épisodes choisis. Je vous laisse cette semaine avec une pensée d'Amandine Groco. Je ne suis plus le désert, je suis à nouveau l'océan. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine.